Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant mort et résurrection de Jésus. Vérité ou mythe? Nous arrivons à l'étude numéro 6 et le thème sera le triomphe étonnant d'un agneau immolé. Apocalypse chapitre 12, versets 10 à 12, où il est dit « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qu'ils accusaient devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Chers amis, qu'est-ce qui entraîna la chute désastreuse de Jérusalem et du royaume de Juda en 587 avant Jésus-Christ? On peut mentionner plusieurs facteurs. L'ascension de Babylone au rang de superpuissance, l'esprit de conquête du roi Nebuchadnezzar, qu'on appelle aussi Nabucodonosor, le déclin de la dynastie davidique, l'orgueil, l'arrogance et la navrante stupidité de Ézéchias, le roi judéen, qui avait étalé toute la richesse de son royaume sous les yeux des émissaires babyloniens, ainsi que la bêtise criminelle du roi Sédécias, qui rejeta les avertissements du prophète Jérémie, et les péchés du peuple juif, qui finirent par leur attirer le jugement de Dieu. Ou encore, on pourrait simplement répondre que Dieu en fut peut-être la cause. Quelle est la réponse juste? Eh bien, elles sont toutes également justes. Et laquelle est la plus fondamentale? Voyez-vous, d'où venaient les malheurs, par exemple, de notre ami Job? Eh bien, là encore, on peut donner diverses réponses. Les Sabaïens, les Chaldéens et leurs troupes de pillards, les forces naturelles telles que le vent violent qui a abattu la maison sur les enfants de Job et qui les a tués tous, le deuil, ainsi que la maladie de Job, qui souffre terriblement, assis dans la cendre, à se gratter avec un tesson, une femme acariâtre, le mauvais réconfort apporté par des amis insensibles et théologiquement ignares. Ou encore on pourrait simplement répondre que Satan en était la cause. Quelle est la réponse juste? Eh bien, encore une fois, elles sont toutes aussi justes l'une que l'autre. Chers amis, qu'est-ce qui, au cours des dernières décennies, a causé le plus de souffrance à l'Église? Évidemment, les réponses vont varier énormément selon l'endroit d'où on parle. En Chine, par exemple, le totalitarisme du gouvernement se manifeste parfois par des actes de répression contre les chrétiens dans certaines régions. Il est certain que les croyants chinois ont souffert de ces mesures répressives, en particulier à l'extérieur des zones économiques spéciales. Par contraste, dans plusieurs régions de l'Afrique subsaharienne, là, l'Église se heurte aux mentalités tribales et aux guerres intestines qu'elle provoque et qui se terminent parfois en d'horribles bains de sang. Ce sont là des reliquats de l'époque coloniale qui a tracé des frontières par souci de commodité pour des puissances étrangères sans tenir compte des affinités entre les tribus. L'urbanisation rapide des populations et l'accès à l'éducation de niveau supérieur dans plusieurs pays d'Afrique ont aussi présenté des défis pour l'Église. On entend souvent dire que le banc des fidèles est plus élevé que la chair du prédicateur, ce qui, naturellement, vous l'avez compris, est une erreur. Autrement dit, on trouve dans les zones urbaines d'Afrique une nouvelle génération qui étudie à l'université, alors qu'un bon nombre de pasteurs, ils n'ont qu'une éducation de niveau primaire associée à une formation biblique des plus rudimentaires. Le problème endémique du sida, oh là là, ça affecte profondément l'Église d'Afrique avec ses quelque 12 millions d'Africains qui sont carrément infectés par le virus du sida. Dans certaines villes d'Ouganda et de Tanzanie, des populations entières allant de 15 à 65 ans ont été totalement décimées. À Soweto, en Afrique du Sud, où les pasteurs célèbrent souvent une dizaine de funérailles par semaine, uniquement pour des victimes du sida. On pourrait encore mentionner la sécheresse au Sahel. Plus grave encore sont les tensions croissantes générées par les militants islamistes dans les états limitrophes comme le Soudan, le Nigeria et l'Érythrée. Bref, des chrétiens d'Afrique, bien que très nombreux, manquent totalement de leadership solide, de formation et de vision pour un avenir. Actuellement, par exemple, au Yémen, il y a même le choléra. Qu'en est-il de l'Occident, de l'Église chez nous? Elle est aux prises avec une série de problèmes d'un tout autre ordre. On y trouve, malgré la récession, une grande prospérité matérielle à laquelle se conjugue, du moins dans certaines régions, une nouvelle pauvreté consternante, voire même effarante. Le rythme effréné de la vie nous force souvent à mettre de côté ce qui compte vraiment le plus. Oui, c'est grave. Les sociétés nouvelles, sécularisées, tolèrent encore un petit peu la religion, pourvu que celles-ci ne prennent pas trop d'importance, et même la foi chrétienne se confine désormais à la sphère de la vie privée. Il est difficile d'imaginer, par exemple, que l'on avait câblé autrefois le texte des sermons entiers de Charles Spurgeon de Londres jusqu'à New York en vue de leur publication dans l'édition du lundi matin du New York Times, car les gens voulaient lire le sermon complet de Spurgeon en prenant leur petit déjeuner du lundi matin. Difficile à imaginer, n'est-ce pas? En ce qui concerne les habitudes de lecture, il y a à peine un siècle, on trouvait littéralement des centaines de petites éditions de maisons d'édition qui publiaient des livres chrétiens et des livres de poésie. Eh bien, c'est difficile à croire. À l'époque, les gens s'installaient confortablement pour lire, comme de nos jours, ils allument la télévision pour regarder leur émission favorite. De nos jours, les conversations portent sur l'économie, la politique, le sport, les affaires internationales, ainsi que sur les têtes d'affiche des médias qui sont importantes du seul fait qu'elles sont des têtes d'affiche médiatisées. Voyez-vous, les conversations portent très rarement sur la vérité, sur l'intégrité ou de Dieu. Et si elles le font, elles ne portent pas vraiment sur Dieu, mais elles portent sur ce qui diverse, sur ce que diverses personnes peuvent bien dire des personnes qui prêchent l'Évangile. Il y a un siècle et demi, on ne pouvait pas aborder un sujet à l'échelle nationale sans qu'il soit question de la providence divine et de l'action de Dieu dans l'histoire. Or aujourd'hui, une telle mention semble vieux jeu et pour le moins déplacée. Ajoutons à ces tendances on peut dire entre guillemets sociales, l'indifférence morale et théologique et l'absence de la prière totale dans la vie de beaucoup de croyants et d'églises. Et il est facile de voir qu'un malaise profond a envahi la société occidentale. Et l'Église en souffre énormément. Chers amis, je parle des maux qui affligent l'Église occidentale. Mais avez-vous remarqué selon quel point de vue je les ai décrits? D'un point de vue sociologique, historique, existentiel, démographique, économique, psychologique et médical ou autre. J'ai parlé des difficultés que traverse l'Église simplement en décrivant ce qui se produit, en rapportant les circonstances extérieures. Or, je n'ai nullement fait mention du diable, ni de Dieu. Je ne veux certainement pas laisser entendre que les analyses sociologiques ou démographiques ne révèlent rien d'utile. Je n'ai pas dit ça. Au contraire, ce type d'approche est très utile, non seulement pour les missionnaires qui servent dans d'autres pays et qui doivent apprendre la langue et connaître les usages et les mœurs des gens, telles que leurs habitudes, leurs préjugés, même leur sens de l'humour. Mais aussi, pour nous qui voulons comprendre notre propre culture, en particulier quand celle-ci est en mutation de plus en plus rapide. Chers amis, en Apocalypse chapitre 12, l'apôtre Jean, il nous offre un aperçu des problèmes auxquels l'Église est confrontée selon le point de vue de Dieu. L'apôtre Jean emploie un genre littéraire appelé l'apocalyptique, qui semble très étrange aujourd'hui parce qu'il n'est plus du tout en usage. Le dragon, on a oublié. Le dragon combat les êtres angéliques avant d'être précipité sur la terre. Cette description correspond à celle que nous donne Jésus quand il a dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Saint Luc, chapitre 10, verset 18. Au commencement du ministère du Messie de Jésus-Christ, Satan est donc banni du ciel. C'est très important de comprendre cela. Ces paroles de Jésus se rapportent à la prédication de l'Évangile et à la manifestation de puissance qui accompagne le ministère des disciples que Jésus a envoyés. C'est une préfiguration de la croix et de la résurrection qui vont bientôt se produire. Comparons la parole de Jésus qui se trouve en Saint Luc chapitre 10 verset 18 avec celle de Saint Jean. Il est dit « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. » Oui, celui qui avait séduit toute la terre, verset 9. Ce texte marque un point tournant décisif, un point tournant sur le plan des principes. Satan est maintenant vaincu. Cela s'est accompli lors de la croix, lors de la résurrection et de l'exaltation de Jésus au moment de l'instauration du royaume de Dieu. La défaite de Satan constitue un thème majeur des Saintes Écritures. Au début du livre de Job, par exemple, il se présente l'ennemi, Lucifer, il se présente devant Dieu, au milieu des fils de Dieu, donc d'autres êtres angéliques. On a là l'impression qu'il le peut. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ n'a pas encore accompli son œuvre de salut. Satan est donc l'accusateur de nos frères. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et j'ajoute de nos sœurs. Vous l'avez compris, quand la Bible parle de frères, elle comprend automatiquement les sœurs. Il déclare, en quelque sorte, à Dieu, toi, tu connais Job. Job te sert, mais il te sert uniquement pour la simple raison que tu t'occupes un peu trop de lui. tu le combles de beaucoup de biens. Car en réalité, ça, c'est un homme perfide. Or, si tu lui retires ta protection, crois-moi, il te maudira en face. Cette accusation est à la source de l'intrigue du livre de Job. Mais à présent, Satan, il se voit être précipité hors du ciel avec un tiers des anges. L'accusateur de nos frères et sœurs, il n'est plus là. Pourquoi? Mais parce que il y a eu une guerre dans le ciel, qu'il a été vaincu et qu'il a été expulsé du ciel. La victoire de Christ est la cause de son expulsion. Satan ne peut plus accuser personne. Pourquoi cela? Mais parce que un rédempteur s'est levé qui vous a, vous qui écoutez, racheté. Donc, la défaite de Satan, elle est décrite dans Die Offenbarung, ce qui veut dire Apocalypse chapitre 12, verset 9. Et cela devient le fondement de la suite du passage. Comme nous le verrons tout à l'heure, l'élément central des versets qui suivent, parfois sous forme poétique, c'est que l'accusateur de nos frères, et j'ajoute nos sœurs, a été précipité. Notez les versets 10 et 12 d'Apocalypse chapitre 12. S'il vous plaît, notez les indications bibliques que je vous cite pour que vous puissiez constater que je ne vous dis rien d'autre que la sainte parole de Dieu. Je ne me permettrai jamais de dire autre chose, car j'en serai responsable devant Dieu. Cher Jamie, qu'est-ce qui déchaîne la fureur de Satan? Notez Apocalypse chapitre 12, verset 10 et les versets 12 à 17. Premièrement, nous avons sa sphère d'activité qui est dorénavant très réduite, car il lui reste peu de temps. Après que Satan a été précipité sur la terre, verset 9, l'apôtre Jean entend dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. » Verset 10. Le règne de Dieu n'est pas encore pleinement accompli, mais il a commencé. Son inauguration a bel et bien eu lieu parce que la défaite de Satan, elle est définitive. Dans les termes symboliques des versets 7 à 9, Satan a été précipité. Il n'y a plus de place pour lui dans le ciel. S'il vous plaît, comprenons cela. Car il ne peut plus se présenter comme autrefois devant Dieu, ni lancer des accusations contre les frères. Et vous avez compris, j'ajoute moi-même les chères sœurs. Il a donc été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, selon le verset 10. Satan exerçait ses activités sur la terre depuis la chute. Mais il a perdu son pouvoir de se présenter au ciel pour continuer de nous accuser si directement devant Dieu. Donc il ne peut désormais agir que sur la terre. Mais c'est déjà beaucoup. Ainsi, il déchaîne toute sa colère et toute sa fureur contre la femme, c'est-à-dire contre nous qui sommes la communauté messianique, afin d'assouvir sa vengeance. Quand le dragon a vu qu'il avait été précipité sur la terre, il a poursuivi la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle, verset 13. La restriction de sa sphère d'activité et de son pouvoir est précisément la raison qui a déchaîné sa colère. Il n'est pas seulement profondément mauvais, mais il est également violemment contrarié et rempli d'une rage meurtrière. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Verset 12. Il n'est pas rempli de fureur uniquement parce qu'il est extrêmement puissant, mais parce qu'il sait qu'il a perdu, que sa fin est proche et que sa sphère d'activité devient de plus en plus réduite. Il sait donc que, en principe, sa défaite est déjà totale. Une telle réaction est tout à fait vraisemblable sur le plan psychologique. Cela s'est déjà produit dans l'histoire. Par exemple, au cours de la première guerre du Golfe, les Alliés ont déployé 250 000 de soldats qui ont débarqué des tonnes de matériel et qui ont mis en place des systèmes d'armes sophistiqués qu'il était impossible à Saddam Hussein d'égaler. Il est donc évident, pour quiconque avait un grain de bon sens, que la guerre était jouée. Or, Hitler, ce terrible personnage, a réagi de la même façon lors de la Seconde Guerre mondiale. En 1944, l'armée allemande a perdu du terrain sur leur front oriental. À un coup terrible, les Russes ont poursuivi leur avance. Les Alliés avaient fini de nettoyer l'Afrique du Nord et ils avaient débarqué au sud de l'Italie en faisant déjà route vers le nord. Puis il y a eu le débarquement sur la plage de Normandie. En 3 jours à peine, plus d'un million, avez-vous entendu, plus d'un million de soldats et de tonnes de matériel ont été déployés. Donc, pas besoin d'être très brillant ou d'avoir un doctorat pour comprendre que Hitler avait perdu la guerre. sur le plan des ressources en matériel, du nombre de soldats, des ressources financières, le nerf de la guerre est pétrolière également, car en Allemagne il n'y a pas de pétrole. La guerre était donc terminée. Peu importe qui remporterait telle ou telle bataille. Or l'issue ne faisait plus de doute. Le Japon avait produit environ 7 millions de tonnes d'acier par année. L'Allemagne, réduite en ruines par les bombardements, en produisait bientôt plus. Les États-Unis, à eux seuls, en produisaient entre 50 et 60 millions de tonnes. Les chiffres confirmaient donc la victoire des Alliés. Ce n'était plus qu'une question de temps, on peut dire de jours. Est-ce à dire, chers amis, que Adolf Hitler a abandonné la partie? Mais pas du tout. C'est ce que la majorité de ses généraux voulait vraiment qu'il fasse. Mais non, non, non. Hitler a décidé de lancer la fameuse bataille des Ardennes qui précéda de peu l'assaut final sur Berlin. Ces batailles ont donné lieu à certains des plus intenses combats de toute la guerre. Hitler a même utilisé des enfants comme soldats. C'est très grave et criminel. Mais il ne capitula pas. Sa fureur ne fit que augmenter, exactement comme Satan aujourd'hui. Chers amis, l'opposition que nous rencontrons, elle est de cette nature-là. La sphère d'activité de Satan est réduite, il lui reste peu de temps et il est plein de fureur. Il ne peut donc s'en prendre directement à Jésus, ça c'est terminé. Alors il tente, par tous les moyens, de détruire son peuple, la femme, c'est-à-dire vous et moi. Les maux qu'il afflige le peuple de Christ, les enfants de la femme, ne résultent pas du fait que Satan détient encore un trop grand pouvoir, mais résulte du fait qu'en principe, il a perdu la guerre. C'est pour cela qu'il déchaînera sa fureur jusqu'à la dernière minute. Et il s'agit là d'un conflit d'ordre cosmique, international et mondial et cosmique. Et deuxièmement, de plus, le triomphe de Satan sera de courte durée, selon Apocalypse chapitre 12, versets 13 à 17. L'auteur, qui est Saint Jean, décrit les attaques de Satan contre le peuple de Dieu, de même que les interventions de Dieu en réponse en utilisant le langage de l'Exode, lorsque Israël errait dans le désert. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu. Verset 14. Cette phrase s'inspire probablement de Exode chapitre 19, verset 4. Vous avez vu, ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et que je vous ai amené vers moi. » Ça, c'est le texte d'Apocalypse, chapitre 13, verset 14, jusqu'au verset 17. Et là, il est évoqué plusieurs autres images tirées de l'Exode. Et Dieu lui-même, il porte la femme au désert, un thème que nous avons déjà abordé au chapitre 12, verset 6. Au désert, celle-ci est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Verset 14. Et là encore, une période d'épreuve précédant une délivrance finale. Est-ce à dire que la femme est véritablement loin de la face du serpent et hors de sa portée, à l'abri de tout danger? Bien au contraire, le serpent la poursuit et il tente de la noyer en lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve, verset 15. Il s'agit presque certainement d'une allusion au récit d'Exode chapitre 1 et 2 qui avait décrit comment Satan, par l'entremise de Pharaon, souvenez-vous, a tenté de détruire toute la postérité de la promesse en faisant jeter tous les enfants mâles dans le Nil. Encore une fois, Satan veut vraiment détruire l'Église. Mais voilà, Dieu intervient, alléluia. La terre a secouru la femme et elle a ouvert sa bouche. Elle a englouti le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule, verset 16. Cela signifie-t-il que le diable déclare forfait? Absolument pas. Non, non, non. Le diable est d'autant plus en colère. Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à tous ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Verset 17. Si nous poursuivons par la lecture du chapitre 13, nous verrons que Satan dispose de deux alliés importants. C'est l'Antéchrist et le faux prophète, l'un en lien avec la mer et l'autre avec la terre. Son domaine se limite à la terre et à la mer, verset 12. Ainsi nous lisons en Apocalypse chapitre 13 que les bêtes montent de la terre et de la mer, et qu'elle forme avec Satan lui-même un triumvirat impie, c'est-à-dire une sorte de trinité satanique. Les deux chapitres suivants décrivent de quelle manière lui et ses alliés manifestent leur opposition. Pour ceux que cela intéresse, veuillez s'il vous plaît, si vous avez Internet, chercher 3 fois W, donc www, Bible explique en un seul mot, www.apocalypse.ch et vous pouvez trouver là toute la série des prophéties des derniers temps. Très, très important. Chers amis, les causes de la colère de Satan sont donc évidentes. Sa sphère d'activité est réduite, car il lui reste peu de temps, et son triomphe est limité. Il faut comprendre la nature de l'opposition à laquelle l'Église fait face aujourd'hui, car cela nous concerne directement. En effet, c'est dans ce cadre que nous vivons. Avant de poursuivre, il vaut la peine de s'arrêter un instant pour se demander comment l'Église fait face à ce conflit titanesque qui l'oppose à Satan. Même si on sait que Christ et son peuple remporteront la victoire finale, quelle est la situation actuelle? Je vous pose la question. Au cours de l'histoire de l'Église, on a proposé plusieurs théories pour répondre à la question de savoir si dans le monde, les choses vont en s'améliorant ou en se dégradant. Ces théories reposent sur de grands systèmes eschatologiques, la doctrine des dernières choses. En Angleterre, au XVIe siècle, la plupart des pasteurs ont épousé la position post-millénariste, je répète, post-millénariste en matière d'échatologie. J'ai donc dit post-millénariste, car ces gens-là croyaient que la prédication de l'Évangile allait introduire une merveilleuse période millénaire, vraiment comme un conte de fées, de gloire et de splendeur, avant le retour final du Seigneur. Vraiment, Alice au pays des merveilles. Il croyait qu'en prêchant l'Évangile avec une vigueur renouvelée, ils entreraient dans un véritable âge d'or, c'est-à-dire une période pendant laquelle toute la terre serait si profondément transformée que cela équivaudrait à dire que dans les faits, Christ règne sur son Église au moyen de sa sainte parole. C'est aussi merveilleux que Blanche-Neige avec les sept petits nains. Or les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal et non pas dans le bien. Ils vont égarer les autres et ils s'égarent eux-mêmes. Le monde va donc continuer à se dégrader. Toutefois, lues dans leur contexte, les paroles de l'apôtre Paul ne signifient pas que chaque nouvelle génération sera pire que la précédente, mais que dans toutes les générations à venir maintenant, les hommes méchants seront, écoutez bien, de plus en plus méchants. Encore avant-hier, une jeune fille a poignardé dans le cœur une autre jeune fille. Et tous les jours, il y a des choses de ce genre. Tous les jours. Que croyez-vous? que les rassemblements géants dans les plus grandes villes d'Europe, des homosexuels qui se disent être fiers, la fierté d'être homosexuel, c'est-à-dire la gay pride. Que croyez-vous? Que Dieu va regarder cela d'une façon pacifique? Non, non, non. Ceux qui lisent un peu la Bible peuvent croire sans faille que Sodome et Gomorre ont existé, qu'un petit prophète Jonas avait crié haut et fort que Ninive serait détruite s'il n'y avait pas un changement total. Il ne faut pas rigoler avec ça. Voyez-vous? Non, non, non. Les causes de la colère de l'ennemi sont donc évidentes. Il lui reste peu de temps et son triomphe est limité. Avant de poursuivre, il vaut la peine de s'arrêter un instant pour se demander comment l'Église fait face à ces conflits titanesques qu'il oppose à Satan. Même si on sait que Christ et son peuple remporteront la victoire finale, quelle est la situation actuelle? Au cours de l'histoire de l'Église, on a proposé diverses théories pour répondre à la question de savoir si dans le monde, les choses vont en s'améliorant ou en se dégradant. Ces théories reposent sur de grands systèmes eschatologiques, c'est-à-dire la doctrine des dernières choses. En Angleterre, au XVIe siècle, et je l'ai déjà dit, les pasteurs avaient cru que l'avenir serait un avenir rose, un conte de fées, mais pas du tout. La réalité, elle est tout autre. Car, je le répète, les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Et ils vont égarer les autres. Et je le répète, comme ils égarent eux-mêmes. La meilleure façon d'aborder la question, c'est de réfléchir la signification de la parabole de l'ivraie et du grain, et du bon grain. Notez Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Il est dit, Jésus leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu, a semé de l'ivraie parmi le blé, et s'en est allé. Lorsque l'herbe a poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison sont donc venus pour dire au Seigneur, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, 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 dit-il, de peur que, en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Il s'agit donc bien de blé. Laissez croître ensemble, aussi bien l'un que l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Ensuite, amassez le blé dans mon grenier. Jésus reconnaît qu'un ennemi a donc semé l'ivraie. Mais il maintient qu'il faut laisser le blé et l'ivraie croître jusqu'à la moisson. Peu importe donc comment on effectue les calculs. Il y a eu davantage de travail missionnaire accompli à travers le monde et plus de conversion à Christ au cours des 150 dernières années que dans l'ensemble des 1800 années qui ont précédé. On a annoncé l'Évangile à un plus grand nombre de personnes et dans une plus grande, on peut dire, dans des endroits partout. Par ailleurs, il y a aussi eu un plus grand nombre de chrétiens qui ont souffert vraiment à cause de leur foi au cours de la même période. Qu'arrivera-t-il au cours du XXe siècle dans lequel nous sommes maintenant, si Jésus ne revient pas avant? Je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je peux vous le dire, le monde continuera à devenir à la fois par endroits un peu meilleur, mais partout beaucoup pire. L'Évangile continuera à progresser, ainsi que l'opposition qu'il rencontre. Les chrétiens vont donc continuer à répandre la semence de l'Évangile, et il y aura ici et là des épisodes de réveil spirituel et de grandes bénédictions. Des millions de personnes se convertiront au Seigneur Jésus. Il y aura d'abondantes récoltes d'âmes suivant d'abondantes semailles. Mais il y aura aussi de plus en plus de persécutions. Peut-être même plus que jamais dans toute l'histoire de l'humanité. Tout cela ne se produira pas en même temps, ni aux mêmes endroits. Mais le roi a déclaré, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. J'ajoute que par-delà toutes les fautes, les échecs et les trahisons dont se rendent coupables les êtres humains, là se cache la fureur de Satan qui induit les peuples du monde en erreur. Car Lucifer est rempli de fureur parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. L'espace exigu que nous occupons dans le cours de l'histoire limite trop souvent nos vues échatologiques. Nous adoptons des perspectives trop étroites et surtout, nous ne les conformons pas à l'enseignement de Jésus. Jésus dit « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson ». Voilà donc, chers amis, les raisons et les conséquences de la fureur de Satan. Chers amis, Venons-en enfin à la bonne nouvelle. Amen. Et maintenant, j'aimerais vous transmettre quelques mots pour votre éducation personnelle, mais aussi pour votre enseignement personnel. Écoutez bien. Marchez dans les voies du Seigneur et faites-lui confiance. Aucun mal ne saurait vous atteindre. Il est à vous comme vous êtes à lui. Que cette vérité vous tranquillise pleinement. Oui, tranquillisez-vous. Autrement dit, cessez de vous débattre. Que cette certitude vous remplisse d'une confiance sereine et forte. Venez à Jésus, mais ne le faites pas seulement lorsque le nombre ou le poids des difficultés de la vie vous écrase. Faites-le habituellement pour acquérir le vrai discernement ou le sentiment d'une amitié et d'un commerce intime et sûr. Le monde, ce pauvre monde qui reste le sien, se précipite vers lui quand ses difficultés deviennent telles qu'il n'a plus d'autre recours. Alors il oublie ou n'a jamais su que en cultivant habituellement son amitié et son intimité avec la même ardeur, la plupart des difficultés qu'il connaît n'auraient pas existé. Les circonstances de la vie, le caractère en auraient subi de telles modifications, il se serait produit une telle purification que ces difficultés n'auraient pas pu surgir. Oui, cherchez le Seigneur de bonne heure. C'est le meilleur moyen de le trouver. De bonne heure, c'est-à-dire avant que les ennemis, avant que les difficultés et les plaisirs de la vie ne viennent s'interposer entre vous et lui. Et maintenant, chers amis, prions ensemble. Seigneur, bénis le désir que nous avons de prier avec sincérité. Assiste-nous par le secours de ton Esprit Saint de grâce. Nous nous prosternons devant toi en cherchant à nous recueillir devant ta sainte présence. Mais de combien d'impressions, de pensées mondaines ne sommes-nous pas assaillis, même au pied de ton trône? C'est là un des effets déplorables de nos rapports avec le monde. Il nous séduit et nous captive, tandis que nous subissons son influence. Et lorsque nous voulons revenir à toi, nous ne le pouvons plus, à moins que tu ne daignes briser les liens dans lesquels nous nous sommes jetés nous-mêmes. Tu n'as pas voulu nous ôter du monde. Bien au contraire, tu nous as envoyés. Mais en même temps, ô Seigneur, tu veux que nous ne soyons pas du monde. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as prié pour nous, fais-nous connaître ta puissance, que ton amour soit en nous, afin que nous soyons gardés par toi, qu'au milieu du monde nous puissions penser à ce que tu as fait et que tu as souffert pour nous, que nous ayons toujours le sentiment d'être sous le regard du Très-Haut, que le but de notre existence, l'éternité, le salut nous soit constamment présent, alors nous serons, on peut dire, préservés carrément du mal. Alléluia. Exauce-nous dans ta miséricorde, ô Dieu, et ne nous abandonne pas à nous-mêmes. Amen. Et maintenant, j'aimerais vous transmettre un ou deux chants d'un lointain passé, 1962, et vous comprendrez que là, les enregistrements ne pouvaient pas se faire comme aujourd'hui. J'ai dû le faire avec un enregistreur Revox à bande. Et la qualité, vu qu'il y a plus d'un demi-siècle, a naturellement diminué, mais l'Esprit Saint vous transmettra tout de même quelque chose, soyez-en sûrs. Et maintenant, souvenez-vous que Dieu vous aime, et il est mon devoir de vous aimer tous, et je vous embrasse maintenant tous avec tout mon amour. Soyez bénis et à demain matin pour la suite de cette série. Au revoir.
He took my hand and led me out of sin. He took my heart and let me love again. He gave me strength and helped me be a man. I called his name. He took my hand. I knelt and prayed, and Jesus heard my voice. He answered me with happiness and joy. He let me know that he understands. I called his name. He took my hand. So if you're lost and cannot find your way, he'll guide you to a brighter, better day. Just call his name, he'll take your hand.
He'll take
are blooming bright and fair after the gray of winter's gone. Once again the lark begins its tuning back in the meadows of my home.
Back the spring time.
stream that flows so cool and clear. Down from the mountains high above, I will tell the world a wondrous story of the precious stream filled with your love.